VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 14 août 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, l'opposant Soumaïla Cissé rejette les résultats de la présidentielle de dimanche et appelle le pays à se lever.
En République démocratique du Congo, les partisans de l'opposant Moïse Katumbi et les ex-rebelles du M23 ont appelé à des élections crédibles en décembre prochain.
Au Tchad, ouverture d'une information judiciaire contre X après l'attaque de samedi contre la localité de Kouribougri par des rebelles.
Amnesty International et Human Rights Watch dénoncent l'impunité en Égypte, 5 ans après des sit-ins réprimés dans le sang au Caire.
L'ONU demande une enquête crédible après le raid aérien qui a tué au moins 29 enfants au Yémen.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, le candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé, rejette d'ores et déjà les résultats du second tour de la présidentielle qu'il a opposé dimanche au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Hier, au QG de son parti, M. Cissé a dénoncé ce qu'il a qualifié de fraude massive et de bourrage des urnes, et il a appelé le pays à se lever. Pour sa part, le ministre de la Sécurité a fait le point sur la sécurisation du vote. À Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
C'est un ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en tenue militaire avec ses galons de général de brigade, qui s'est entretenu avec la presse pour faire le bilan de la sécurisation du vote de dimanche dernier. Général Salif Traoré.
Nous étions à 871 la dernière fois, et cette fois-ci, nous sommes à 490 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir. Malheureusement, encore une fois, c'est la région du Mopti qui arrive en tête, avec environ 440 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir. Et sur les 440, vous avez au minimum 100 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir pour cause d'inaccessibilité.
Les candidats de l'opposition Soumaïla Cissé rejettent à l'avance les résultats, appellent la population à se lever. Selon les données à notre disposition, nous sommes largement en avance sur le président Ibeka, déclare Soumaïla Cissé. Il condamne aussi le sabotage de leur base de données par les services techniques de l'État. Soumaïla Cissé n'a pas aussi mâché ses mots face à l'interpellation de 4 éléments de sa cellule de communication. Les 4, après 2 heures d'interrogatoire au niveau d'un commissariat de Bamako, ont été relâchés, mais jusqu'à présent il y a un qui est introuvable. Face à cette situation, les candidats Ibeka et ses partisans n'ont pas voulu se prononcer. Ils préfèrent attendre les chiffres officiels qui seront proclamés par l'administration territoriale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'opposition se mobilise pour le retour au pays de l'opposant Moïse Katumbi. Sa plateforme électorale, Ensemble pour le changement, annonce des manifestations publiques dans les jours qui viennent et 5 candidats de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain ont signé un communiqué conjoint appelant notamment le gouvernement à autoriser le retour immédiat de M. Katumbi et sa participation aux élections. Les détails avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Des manifestations publiques synchronisées sur toute l'étendue de la République dans le but d'obtenir le retour de Moïse Katumbi et sa participation aux élections du 23 décembre 2018, c'est le mot d'ordre lancé lundi à Kinshasa par la plateforme Ensemble pour le changement. Délice Sangra, son secrétaire général, affirme que des marches sont prévues dans toutes les provinces pour obtenir que les élections soient véritablement démocratiques, libres, transparente et surtout inclusive. Un appel réitéré par quelques candidats de l'opposition à la présidentielle. Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu et Martin Fayulu ont dans un communiqué conjoint signé lundi soir, je cite, fermement condamné la décision prise par le gouvernement d'interdire d'autorité à Moïse Katumbi de rentrer en RDC, le contraignant ainsi à l'exil et l'empêchant de ce fait de déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Fin de citation. Ils exigent son retour immédiat au pays. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, les ex-rebelles du M23 appellent pour leur part à des élections crédibles après le retrait du président Joseph Kabila. Abdourahman Dia.
Les ex-rebelles du M23, qui avaient été défaits dans l'est du pays, affirment dans un communiqué être physiquement présents sur le territoire national congolais depuis le 14 janvier 2017. Ils disent aussi ne pas répondre aux multiples provocations de l'armée. Cependant, cette attitude d'abstention ne sera maintenue que si et seulement si le processus électoral actuel se révèle plus inclusif, transparent et libre de manière à garantir toute la confiance des électeurs, prévient le M23. L'ancien mouvement rebelle demande en particulier la mise à l'écart de la machine à voter et la clarification des cas litigieux des 6 millions d'individus irrégulièrement inscrits sur le fichier électoral, selon ses propres termes.
Au Tchad, le procureur de la République, Youssouf Tom, a annoncé hier l'ouverture d'une information judiciaire contre X après l'attaque samedi de la localité de Kouri Bougri par des rebelles. Selon une source militaire citée par l'AFP, ces rebelles étaient venus de la Libye voisine et au moins 3 membres des forces de sécurité tchadiennes, dont un colonel, ont été tués. Cette attaque a été revendiquée par le groupe armé Conseil de commandement militaire pour le salut de la République.
En Mauritanie, l'opposant Biram Oulda Ouldabeïd, président d'une ONG anti-esclavagiste et candidat aux législatives du 1er septembre, a été inculpé et écroué hier pour atteinte à l'intégrité d'autrui et menace d'usage de violence. C'est ce qu'a appris l'AFP de sources judiciaires et auprès de son avocat. Biram Oulda Ouldabeïd était en garde à vue depuis le 7 août dans un commissariat de Nouakchott à la suite de la plainte d'un journaliste mauritanien, Deda Abdallah, l'accusant de calomnie, d'injures et d'incitation à la haine.
En Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi a annoncé hier son soutien à un projet de loi inédit dans le monde arabe pour rendre hommage, pour rendre hommes et femmes égaux en matière d'héritage, un texte qui divise car il déroge, dit-on, à un principe inspiré du Coran. La loi tunisienne actuelle, qui s'appuie sur le droit islamique, prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté.
Amnesty International et Human Rights Watch ont dénoncé ce que ces ONG de défense des droits de l'homme ont appelé l'impunité dont bénéficient les forces de sécurité en Égypte 5 ans après un assaut contre 2 sit-in au cours duquel au moins 817 personnes ont été tuées. Le 14 août 2013 au Caire, des milliers de personnes campaient avec femmes et enfants depuis 6 semaines sur les places Rabat al-Adawiya et Narda pour réclamer le retour de l'islamiste Mohamed Morsi. Le mois précédent, le premier président démocratiquement élu en Égypte avait été destitué par l'armée, alors dirigé par le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, aujourd'hui président du pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'ONU a demandé une enquête crédible après le raid aérien qui a tué au moins 29 enfants au Yémen, mais les experts et ONG doutent que l'Arabie Saoudite, qui dirige la coalition impliquée dans l'attaque, soit capable ou désireuse de la mener à bien. Cette coalition a consenti à ouvrir une enquête le 10 août, au lendemain de la mort dans le bombardement d'un bus scolaire de ses enfants dans la ville de Dayan, tenue par la rébellion Houthi dans le nord. Hier, lors des funérailles de ses enfants, des milliers de Yéménites ont crié leur colère contre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Précision d'Irénée Herman Ungo.
Les dépouilles de certaines des victimes sont arrivées sur une grande place de Saada à bord d'une 50aine de véhicules. Au milieu d'une vaste étendue aride, la foule a brandi les portraits des enfants sur des pancartes accompagnées de leurs noms et de la mention des martyrs. La foule scandait des slogans hostiles aux États-Unis et à Israël et dénonçait unanimement un crime des Saoudiens selon des images retransmises en direct par la chaîne Al-Masira. Un haut responsable rebelle Mohamed Ali Al-Houthi, qui préside un comité révolutionnaire, a pris part à la cérémonie qui s'est transformée en manifestation. Il a lui aussi pointé du doigt un crime de l'Amérique et ses alliés. La chaîne de télévision rebelle n'a pas précisé le nombre de victimes enterrées hier lundi. Certaines familles avaient déjà inhumé leurs proches.
La Turquie n'est pas parvenue à stopper l'effondrement de sa monnaie, alimentée par l'aggravation d'une crise diplomatique avec les États-Unis, accusée par le président Recep Tayyip Erdogan de vouloir frapper dans le dos son pays. La banque centrale turque avait tenté auparavant de rassurer les marchés en promettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité financière.
La chanteuse noire américaine Aretha Franklin, interprète de grands succès comme Respect et I Never Loved a Man the Way I Love You, est dans un état grave et soit des soins palliatifs, a-t-on appris hier, alors que les prières affluaient pour la reine de la Saule. Aretha, qui est âgée de 76 ans, souffre d'un cancer diagnostiqué en 2010. Elle a chanté pour la dernière fois en novembre 2017 au profit de la Fondation Elton John contre le sida.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Idriss Fall.
En Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc et septième au rang mondial, les éveaculteurs ont vu leurs revenus divisés par 5 en 10 ans face à la surproduction mondiale. Les producteurs de caoutchouc naturel dénoncent aussi les taxes prélevées par l'État ivoirien. Samir Amine, économiste franco-égyptien, est décédé dimanche à Paris à l'âge de 87 ans. Lui rendant hommage, le président sénégalais Macky Sall a salué un homme qui a consacré toute sa vie au combat pour la dignité de l'Afrique. Il est, entre autres, l'auteur de l'ouvrage intitulé « Le développement inégal, essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique ». L'action du groupe pharmaceutique Bayer, nouveau propriétaire de Monsanto, a perdu plus de 10% à la bourse de Francfort. Un tribunal de San Francisco a condamné Monsanto à payer 289 millions de dollars d'amende pour ne pas avoir informé sur les substances cancérigènes de son herbicide Roundup avec le glyphosate et les pesticides très prisés en Afrique. Au moins 4000 affaires similaires sont pendantes devant des tribunaux américains.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Rista, bonjour à tous.
Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, l'Afrique sera représentée en quart de finale.
Et oui, un match nul arraché dans les ultimes secondes par le Nigeria qui finit sur un score de parité. Un but partout face à la Chine et ce sont les Chinoises qui ont inscrit un but contre leur camp en toute fin de match. L'Afrique aura donc un représentant en quart de finale. Le Nigeria affrontera l'Espagne. Dimanche, le Ghana avait sauvé l'honneur en battant la Nouvelle-Zélande 1-0. Une victoire qui n'empêche pas les Ghanéennes d'être éliminées. Les résultats d'hier, match nul, 2 buts partout entre Espagnols et Américaines. C'est une grosse désillusion pour les États-Unis, triple vainqueur de l'épreuve en 2002, 2008 et 2012. Les Américaines sont éliminées. Le Japon qui gifle le Paraguay 6-0. L'Allemagne bat Haïti 3-2.
Rubrique transfert.
Eh oui, Keita Baldé prêté par l'AS Monaco pour une saison à l'Inter de Milan pour un montant de 6 millions d'euros. L'attaquant international sénégalais dont l'option d'achat s'élève à 42 millions d'euros a déjà évolué 4 saisons en Italie à la Lazio de Rome entre 2013 et 2017. Le joueur de 23 ans avait notamment inscrit 16 buts en 31 matchs de championnat lors de la saison 2016-2017 avant un départ pour Monaco. À l'Inter, Baldé rejoint d'autres nouveaux venus, le Belge Raja Naigolan, l'Argentin Lautaro Martinez, le Néerlandais Stéphane De Vrij, ainsi que le Croate Sime Frasco. Autre information, selon Sky Italia, le milieu de terrain franco-ivoirien de Chelsea, Tchemwe Bakayoko, prêté au Milan AC avec une option d'achat estimée à 35 millions d'euros, peut utiliser la saison passée par Antonio Conte. L'international français devait faire face à une rude concurrence dans l'entrejeu de Chelsea, notamment avec Kanté, Fabregas, Drinkwater, Barkley, Jorginho et Kovacic.
Un grand du foot espagnol tire sa révérence.
Le milieu David Silva a annoncé à 32 ans la fin de sa longue carrière internationale avec 125 matchs disputés sous les couleurs de la Roja et 35 buts marqués depuis 2006. Sélectionné pour la première fois en novembre 2006 avec l'Espagne, David Silva a été de tous les mondiaux et de tous les euros disputés depuis, devenant le 6e joueur le plus capé avec la Roja. Un autre international espagnol avait annoncé sa retraite internationale en fin de semaine dernière. Il s'agit de Gérard Piqué, 31 ans avec 102 sélections, tout comme un autre Barcelonais, Andrés Iniesta, qui lui finit sa carrière au Japon après le mondial en Russie.
Tennis, Nadal toujours au sommet du classement mondial.
Nadal avait déjà validé durant la semaine son ticket pour le Masters de Londres en fin d'année. On rappelle que cette compétition regroupe les 8 meilleurs joueurs de la saison. Nadal a remporté à Toronto son 80e titre. Il compte plus de 3500 points d'avance sur son dauphin, le Suisse Roger Federer.
En basket NBA, nouveau challenge pour Carmelo Anthony.
C'est désormais officiel, Carmelo Anthony, 34 ans, est un joueur des Rockets. L'ailier All-Star s'est rendu hier à Houston, au Texas, pour signer son contrat d'une saison. Le montant, 2,4 millions de dollars. Carmelo Anthony avait récemment quitté le Thunder d'Oklahoma City pour Atlanta sous la forme d'un échange, ce qui lui a permis de s'engager avec la franchise de son choix en tant que free agent.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seloulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les résultats du second tour de la présidentielle sont attendus dans les prochains jours pour départager le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. Cependant, dimanche, il n'y avait pas bousculade devant les quelques 23 000 bureaux de vote. Comment expliquer ce faible taux de participation des Maliens? Idriss Fall a joint le professeur Issa Ndiaye à Bamako.
Ce n'est pas une surprise. D'abord, c'est la conséquence logique d'une chute de popularité de l'ensemble des acteurs politiques. Les Maliens avaient d'importantes attentes par rapport à la démocratie au sortir de la chute de la dictature. Mais au fil des années, l'espoir s'est amenuisé et la confiance aussi. La gestion des dernières années d'Ibeka aussi a beaucoup contribué à discréditer la classe politique. Et enfin, ces deux acteurs-là qui sont au second tour sont présents sur la scène politique depuis plus de 25 ans. Les Maliens les connaissent suffisamment et n'attendent pas grand-chose de ces deux hommes-là. Les estimations parlent de 22%, mais ce n'est pas les chiffres officiels. Mais on est sûr que de toute façon, on n'atteindra pas la barre des 30%. Ça veut dire simplement que le système démocratique malien, tel qu'il a été pratiqué depuis plus de deux décennies maintenant, n'a pas donné les fruits escomptés. Faut-il revoir le modèle? Faut-il changer les hommes? Ou faut-il faire les deux en même temps? La question exposée. On assiste à une sorte de fin de cycle. La démocratie qui est montée des années 91 est en train de vraiment s'effondrer. Il y a un renouvellement qui se dessine qu'il va falloir traduire en acte politique et ce n'est pas évident.
Ceux qu'on avait appelés les faiseurs de roi n'ont pas donné non plus consigne de vote. Est-ce que ça a eu de l'effet sur la non-mobilisation?
Très peu, parce que d'une manière générale, les Maliens sont dessus de leurs hommes politiques. Ceux aussi qui n'ont pas donné de consigne de vote, parce que ici souvent on vote pour quelqu'un. Quand on n'a pas son candidat, on est pas motivé à le faire. Mais déjà au premier tour, la mobilisation n'était pas énorme. C'est surtout en région que les gens ont voté. Mais je pense que d'une manière générale, on s'attendait à ce que les gens ne se mobilisent pas au second tour.
Décalage entre les hommes politiques pendant que le pays traverse une crise sécuritaire, une crise économique. Quel avenir pour le Mali alors?
Très très sombre, hein? Parce que le pouvoir qui en sortira va sortir moins légitimé que la dernière fois. Je rappelle que Ibeka avait eu près de 77% des gens qui ont voté pour lui, parce que les gens espéraient. Et même s'il est élu, il va être très faible, peu légitime pour pouvoir prendre des décisions. Dans tous les cas, les Maliens sont tellement désespérés qu'ils ne croient plus en ce système-là. C'est pourquoi je dis que l'avenir est très sombre et la seule façon de rebondir, c'est de réunir les populations, de leur demander vraiment de dire quel avenir veut-il pour le Mali. Mais on ne peut plus faire des réformes d'en haut et les parachuter sur les populations. Et je pense que si on donnait la parole au peuple, ils vont changer pas mal de choses, y compris congédier pas mal d'hommes politiques de la scène de l'histoire politique malienne.
C'était le professeur Issa Ndiaye, joint à Bamako. Et les Maliens qui n'ont pas voulu faire le déplacement pour aller voter ont participé hier à notre émission « À votre avis » animée par Eke Abadou. Parmi les réactions, Mariam Koulibaly et Mamadou Sissoko expliquent pourquoi ce deuxième tour n'a pas attiré ou n'a pas drainé les foules.
Il faut noter d'abord que le premier point défavorable pour les élections au Mali, c'est la période choisie. Parce que c'est la période d'hivernage. Non seulement les agriculteurs, ils vaquent à leurs occupations. Et puis, il pleut beaucoup. Au Mali, quand il pleut, les gens ne sortent pas. Parce qu'on est des Sahéliens, on est des Sahariens. On n'aime pas beaucoup la pluie. On veut la pluie juste pour nos ressources culturelles. Sinon, on ne veut pas sortir sous la pluie. Et le deuxième point, c'est que les électeurs, ils sont découragés parce qu'ils ne connaissent même pas leurs candidats. Sur les 24 candidats, moi, je suis à Bamako, je regarde la télé, je lis la presse et je vois l'Internet. Mais sur les 24 candidats, peut-être que je ne connais que 6 personnes. À plus forte raison, quelqu'un qui se trouve à 4000, 5000 km de Bamako, qui fait un mois, deux mois, il n'a pas de téléviseur chez lui, il ne regarde pas la télé, sauf s'il écoute la radio, à part la période d'élection, que les gens se présentent avec des photos pour leur montrer, ils ne connaissent personne. Donc s'il faut forcer ces gens-là pour aller voter, ils ne connaissent pas la personne, ils ne connaissent pas l'intérêt que la personne, s'ils gagnent, il va leur apporter. Ils ne connaissent rien, vraiment c'est un peu difficile. Surtout un deuxième tour qui a trouvé un grand découragement sur la population. Vraiment les gens sont découragés, les gens sont fatigués, les gens sont déçus. Il y a beaucoup de choses. Ceux qui crient pour les élections, quand ils passent, ils ne pensent plus à la population, ils ne pensent même pas à leurs proches, ils ne pensent même plus à ceux qui les ont aidés pour la campagne. Et ça fait plus de 20 ans que le Mali est démocratique, ça fait plus de 20 ans que rien ne bouge. Vraiment, la situation est très difficile au Mali.
Alors vous, quel est votre avis? Pourquoi la faible participation au second tour au Mali?
À mon avis, les Maliens n'en veulent plus aux politiciens, parce qu'on n'est jamais satisfait. On est toujours déçus. Donc, ce n'est pas la peine pour beaucoup de personnes de se déplacer pour aller se fatiguer pour zéro. Parce que tout est revenu à la même chose. Depuis le début de la démocratie jusqu'à nos jours, les politiciens ne cessent qu'à décevoir la population. On n'a aucune satisfaction. Nous sommes toujours déçus.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne plus vous décevoir?
On ne sait pas pourquoi on ne peut pas nous satisfaire. On souffre. Il n'y a rien à la portée de la population. La nourriture est chère, le courant est cher, nos enfants n'arrivent pas à avoir du travail. Qu'est-ce qu'on va faire? On est malade, on n'arrive pas à nous soigner. Où est la satisfaction? Ça ne dirait pas mieux que cette année. Depuis 2011 jusqu'à nos jours, ils ne vont pas se fatiguer.
Mamadou Sissoko et avant lui, Mariam Koulibaly, deux auditeurs du Mali.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Cameroun, les autorités affirment avoir arrêté 7 soldats soupçonnés d'avoir exécuté des femmes et des enfants en 2016 dans la lutte contre Boko Haram. Pour Amnesty International, c'est un pas dans la bonne direction, mais l'Association de défense des droits de l'homme demande des enquêtes plus approfondies sur les exécutions extrajudiciaires commises par les soldats camerounais. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par Raissa Gironda.
Les militants des droits de l'homme ont salué l'arrestation de soldats camerounais accusés d'avoir tué des civils dans leur lutte contre Boko Haram. Dans un communiqué sur Twitter, Amnesty International décrit les images de cette vidéo comme choquantes. Elles montrent des hommes armés qui tirent avec des armes automatiques sur des personnes face contre terre ou assises contre un mur. Amnesty demande une enquête immédiate, approfondie et impartiale. Hilaria Lecrossi, chercheuse à Amnesty International dans la région du lac Tchad.
The opening of investigation and arrests announced by the Cameroonian Minister of Communication.
L'ouverture d'enquête et l'arrestation de soldats annoncés par le ministre camerounais de la communication sont une première étape que nous saluons. Toutefois, si les autorités ne veulent pas prendre ce problème à la légère, nous leur demandons de prendre en compte l'ensemble des abus systématiques perpétrés par l'armée camerounaise.
Other similar incidents have happened.
Issa Chiroma, porte-parole du gouvernement, assure que 7 soldats ont été arrêtés la semaine dernière pour l'exécution de 2 femmes et 2 enfants accusés de soutenir les djihadistes nigérians.
Au terme des investigations telles qu'instruites par le chef de l'État, 7 personnels de nos forces de défense et de sécurité ont été arrêtés et déférés aux tribunaux de compétence. C'est une infime minorité de quelques militaires égarés. Il appartient une fois de plus à la justice d'établir leur culpabilité. Il y a eu un faisceau de présomption d'implication de ces 7 personnels, mais que ce personnel jouissait naturellement de la présomption d'innocence.
Ces arrestations font suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une nouvelle vidéo montrant des hommes en armes et portant l'uniforme de l'armée exécutés. Une dizaine de personnes désarmées et habillées en civil, Amnesty International dit avoir analysé cette vidéo qui corrobore de précédents témoignages d'exécutions extrajudiciaires dans le village d'Ashigashia, dans l'extrême nord du pays. Hilaria Legrossi, chercheuse à Amnesty International, affirme que ce massacre a eu lieu en janvier 2015.
Amnesty International
a déjà montré que ces crimes horribles ne sont que le sommet de l'iceberg et cachent mal les violations systématiques commises par les forces de sécurité camerounaises dans leur lutte contre
Boko Haram.
De son côté, le ministre Issa Tchiroma Bakary assure que sans enquête, il ne reconnaît pas cette seconde vidéo.
Je rejette. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas établi de manière incontestable l'origine et l'appartenance des soldats qui auraient perpétré ces exécutions sommaires, il est question naturellement pour le gouvernement de rejeter. Alors cette vidéo également fera l'objet d'une investigation poussée, instruite par le chef de l'État.
Le ministre Tchiroma Bakary assure que toute accusation contre les forces de sécurité fait l'objet d'une enquête sérieuse. Car selon lui, le président Paul Biya n'accepte pas que quelques brebis galeuses, quelques soldats égarés puissent, par leur comportement inacceptable, porter atteinte à l'honneur et la dignité de l'armée camerounaise.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, en moins de 6 mois, le gouvernement a revu à 2 reprises la hausse des prix. Au Burundi, en moins de 6 mois, le gouvernement a revu à 2 reprises à la hausse le prix des produits pétroliers. Pour le ministre des Hydrocarbures, de l'Énergie et des Mines, cette hausse est liée au prix du carburant au niveau international. Pour l'Association burundaise des consommateurs, une telle hausse se fait sans une réelle transparence. Les consommateurs indiquent qu'ils n'en peuvent plus, nous dit de Bujumbura le correspondant de VOA Afrique, Christophe Kurunziza.
Désormais, le prix du litre d'essence super passe de 2250 à 2400 francs burundais et dorénavant 2350 pour le litre gazoil. Cette hausse des carburants a déjà occasionné la hausse du prix des transports dans les provinces de l'intérieur du pays, de même que les prix des produits vivriers. Le ministre des Hydrocarbures, de l'Énergie et des Mines, comme Manuel Kiza, justifie son choix.
Cette mesure de révision des prix des produits pétroliers est dictée notamment par, premièrement, la hausse des prix de ces produits sur le marché international qui ont augmenté depuis la dernière structure du 19 janvier 2018, respectivement d'environ 33% et 24% pour l'essence et le gazoil. Comparativement aux prix appliqués dans les pays de la sous-région, on constate que les prix de ces produits restent les plus bas alors que le Burundi se trouve en aval de la chaîne d'approvisionnement par rapport aux différents ports.
Le Burundi, lambda de la capitale, indique que cette hausse des prix pétroliers va augmenter les prix des autres produits. Les habitants de la capitale, qui n'ont pas voulu s'exprimer au micro de VOA Afrique, affirment que cette hausse peut permettre aux autorités de pouvoir continuer la mise en œuvre de leur programme au niveau social. Mais de nombreux Burundais, commerçants, transporteurs, pensent comme Jean Douimana, qui estime que cette mesure gouvernementale va toucher quasiment tous les Burundais de l'intérieur de la capitale.
Voilà que les prix du carburant grimpent, ce qui occasionne la hausse des prix des autres produits, dont les produits vivriers et autres, qui n'est pas touché. Tous les Burundais sont touchés. Les transporteurs ont déjà revu les prix du ticket.
L'association burundaise des consommateurs, Abuko en sigle, son président Noël Nkurunziza n'apprécie pas cette hausse des prix qui se fait sans transparence.
Vous comprenez qu'en tant qu'une association qui défend les consommateurs, on ne pouvait pas apprécier la hausse. Or, une hausse qui a encore des conséquences sur le reste de la vie du consommateur. Il n'y a pas assez de transparence. Nous pensons qu'il devrait y avoir encore plus d'autres stratégies qui devaient être pensées, ayant vu que les deux stratégies ne répondent pas comme il faut à la satisfaction du consommateur.
Noël Nkurunziza, président de l'Association des consommateurs, estime que le gouvernement burundais devait se pencher sur l'option de faire passer ses produits pétroliers sur le lac Tanganyika, car le coût pour les importateurs serait réduit. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la renonciation du président congolais Joseph Kabila à un troisième mandat et ce après un long suspense. Il aurait dû quitter le pouvoir il y a 2 ans, soit à la fin de son second et dernier mandat tel qu'exigé par la Constitution. Que signifie cette décision pour la RDC et le reste du continent? Dans quelles conditions se déroulera l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain après maint report? C'est une édition émission que nous allons vous proposer en collaboration avec notre chaîne partenaire WAF TV à Dakar. Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'était tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.